T'as pas rien ? 3 heures sur RMC.
Ça fait comment le top ? Il fait très bien le top horaire, genre.
Tu vois ?
Merci Georges. En fait, c'était Georges. C'était la bonne Georges. Allez, écoutons.
Carlos Nuzman.
Bonsoir Rio, bonsoir le Brésil.
Le patron d'organisation.
Avec quelques mots en français. Hein.
Mais oui, puisque c'est la langue officielle.
Bonsoir à tous ceux qui regardent depuis les quatre coins de la planète. Nous dit
Good evening to all of you watching from.
Voilà, bon, on va faire en une seule langue,
voilà,
si vous voulez bien.
Voilà.
Georges, voilà. Vas-y, tu peux y aller.
Pour Carlos Nuzman, donc, qui est en train de prendre la parole, lui qui avait ouvert notamment les Jeux Olympiques il y a deux semaines maintenant, ici même au Maracana, donc qui est en train de s'adresser notamment à Thomas Barr, le président du comité olympique international, pour l'un des derniers discours de ces Jeux Olympiques pour Carlos Nuzman, donc le patron de l'organisation. Très ému.
Extrêmement stressé, le patron de l'organisation. Pour dire rapidement qu'on a vu également monsieur le maire de Rio, Edouard de Paes, qui a été sifflé comme à la cérémonie d'ouverture, hein, conspué, le maire de Rio, lui qui avait dit, hein, 2-3 ans avant la tenue de ces Jeux, qu'il avait honte pour Rio, conscient que les chantiers n'avançaient pas et que l'organisation serait un gros problème. On pourra en parler plus tard d'ailleurs. Ça a été un problème pour beaucoup.
Carlos Nuzman qui nous dit que le meilleur endroit du monde est ici. C'est pour ça que vous avez entendu le Maracana se mettre à crier, évidemment. Carlos Nuzman qui invite maintenant tous les Brésiliens ici présents à célébrer ce moment, ce triomphe du sport et de la jeunesse ici au stade Maracana, donc pour cette cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, donc durant toute la campagne pour accueillir les 31e Jeux Olympiques. Il va donc saluer ici l'atmosphère des Jeux avec son petit papier à la main, Carlos Nuzman, qui s'adresse à toute la foule et évidemment qui le remercie. Qu'il remercie pour l'ambiance qu'il y a eu sur ces Jeux Olympiques à Stade Maracana, qui est pratiquement plein.
Oui, t'as raison, pratiquement plein, sauf que là, je vois les sièges des athlètes qui sont en train de se vider. Là, t'as des cortèges d'athlètes qui sont en train de partir, aussi, effectivement, il pleut. T'as plus que deux tiers des athlètes qui sont encore là. C'est un peu vide maintenant, mais je comprends. En temps, 3h30 à attendre, on voit des Américains qui s'en vont justement, dont un qui vient de balancer une chaise. Alors, discrètement.
Il y en a certains qui sont faciles à distinguer. Vous avez forcément remarqué, ce sont les athlètes du Team GB de la Grande-Bretagne, puisqu'ils ont
l'impression qu'on les voit partout.
Ils ont des baskets, en fait. Tu les vois forcément, ce sont des baskets avec des petites loupiottes.
Des LED.
Bleues, blanches et rouges. Je savais pas que c'était revenu à la mode.
C'est un truc que tu ne peux jamais porter en dehors de la cérémonie de clôture.
Il y a un gros retour de hype.
Tu vas à une soirée déguisée.
Il y a un retour de hip là-dessus, de hip, de hype. Je sais pas comment on dit.
Tu fais ça pour aller au bureau, là ?
Non, pas pour aller au bureau, mais. pour aller en boîte,
peut-être. En discothèque.
Voilà, M. Guzman qui va en finir. Il est ovationné. Plutôt content de la tenue de ses jeux, les 31e jeu. Voilà, jeux, et c'est grâce à vous tout ça. Ouais.
Grâce au public, grâce aux bénévoles, grâce aux spectateurs, grâce aux médias.
C'était une réussite quand même. C'était un grand défi, dit-il, d'organiser les jeux. Et on y est arrivé.
Est-ce qu'il y a eu de gros couacs, hein, d'ailleurs, pendant ces Jeux Olympiques ? Véritablement. Parce qu'on avait beaucoup parlé de la pollution, souvenez-vous, pour les épreuves des voiles notamment.
Ça a été plutôt.
Non, mais t'as une litanie de mini-couacs, en fait. Hein. Les transports en commun, les embouteillages, des
les
salles à moitié pleines.
Les prix de certains billets.
Prohibitif, notamment au stade olympique.
Les histoires de pontons, natation en eau libre, triathlon. Hein.
Le vent.
Le vent est un échec pour rire.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Les transports.
Globalement,
la médaille retirée Aurélie Muller aussi.
Bon, à propos. Ah bon. Quelle mauvaise blague. Alors, il continue. Alors, et c'est cette diversité qui nous rend si fiers. Tous les Brésiliens sont des héros olympiques, dit-il. Nous vibrons ensemble.
Les stars brésiliennes qui passent énormément sur Globo, notamment le perchiste. hein, le perchiste brésilien. Thiago Braz, hein, j'ai regardé Globo pas plus tard que ce matin, la judokate également.
Rafaela Silva,
qui est devenue un peu une superstar ici, elle qui vient d'une favela, voilà, qui vient de la cité de.
Qui avait été insultée de façon assez hallucinante lors des derniers Jeux Olympiques, où certains commentaires sur les réseaux sociaux lui disaient clairement de retourner dans sa cage. Et elle a dit, après sa médaille, voilà, certains voulaient que j'entende dans ma cage, voilà ma réponse, j'ai une médaille d'or.
Voilà. Donc il y a quatre sportifs brésiliens, donc le perchiste, la judokate, Neymar, que l'on a vu tout à l'heure être ovationné lorsque son visage est apparu ici sur les écrans du Maracana, lorsqu'on a montré les meilleurs moments de ces Jeux Olympiques, et puis évidemment l'équipe de volleyball qui s'est imposée ce soir, qui a été sacrée championne olympique juste à côté, là, ici au Maracanazinho.
Et vous avez coloré le Brésil en vert et jaune. Et éveillé, dit Monsieur Guzman, dans nos cœurs la fierté d'être brésilien et l'ovation évidemment. C'est vrai que l'Argentine est un peuple extrêmement fier, hein, extrêmement patriote.
Ça, ils aiment leur rapport
n'importe quelle compétition. Alors ça peut être un couac aussi, on l'a pas évoqué. Pour certains, c'en est un. Pour d'autres, ça n'en est pas un.
Les sifflets
presque chroniques contre les adversaires des Brésiliens sur toute une épreuve. Renaud Lavillenie, on a fait les frais. En tout cas, c'en est plein après sa deuxième place.
Ils ont une culture foot, finale, les Brésiliens. Donc ils adaptent ce qu'ils savent faire aux autres sports. Voilà, moi ça me choque pas.
Si Renaud Lavillenie avait gagné dans une ambiance hostile, on aurait dit ça, ah, c'est génial.
Quel hein, mental.
Exactement.
D'ailleurs, Teddy Riner qui a mis un petit taquet au passage à Renaud Lavillenie en expliquant que
lui aussi gagnes, a été sifflé d'ailleurs.
Lui aussi gagner avec les sifflets, il faut se nourrir des sifflets pour se dépasser. Il a tenu aujourd'hui, lors de sa conférence de presse de fin de jeu, lui, le porte-drapeau, à dire que ses propos avaient été déformés par les médias.
Teddy Riner.
Voilà.
Vraiment, nous sommes des méchants.
Oh oui. On trafique les déclarations. Toujours. On adore ça.
Donc Carlos Guzman est en train de remercier les volontaires, notamment, qui sont très nombreux, ils sont des milliers. Vous avez été de vrais guerriers incroyables, hein, les volontaires que l'on a vus tous les jours avec leur tenue fluo, jaune, orange
et verte
pour les volontaires qui parlaient pas beaucoup anglais, hein, en tous les cas pour guider peut-être
en même temps, toi tu parlais pas beaucoup portugais non plus.
Bom dia, boa noite et obrigado.
Pour un Kirino Chavez,
obrigado. C'est vrai qu'on comptait sur toi quand même.
Oui, mais totalement, ils ont plusieurs fois voulu s'adresser à moi en portugais et ça a été un échec de communication véritable. Ça a arrêté tout.
Qu'est-ce qui se passe après Jarbert là, après Monsieur Guzman?
C'est Thomas Barr, le président du comité international olympique, qui va prendre la parole pour boucler ses premiers Jeux Olympiques d'été, hein, puisque c'était pas lui qui était là il y a 4 ans à Londres, c'était encore Jacques Rogge qui était présent. Il était déjà là en revanche à Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver avec Vladimir Poutine qui était juste à côté de lui dans cette enceinte. Donc pour l'instant, eh bien, on est en train de parler, voilà, de cette inspiration. C'est un peu la phrase qu'on a tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, hein. L'inspiration pour les jeunes, alors, pour les générations à venir.
Comme ce discours n'en finit pas, on va accueillir avec Olivier Giraud l'un des guides de cette équipe de France. Didier Dinard est avec nous. Olivier, tu as ramené l'un de tes anciens coéquipiers et qui aujourd'hui est sur le banc.
Alors,
des
c'est
Bleus.
C'est Olivier, du coup, tu vois.
Ah, c'est toi.
Ouais. Ah, c'est ça. Je vais sur le terrain,
Olivier.
C'est
un point en plus. Bravo. Alors là, bravo Isabelle, franchement. Si tu piques le taf d'Olivier Giraud, qui a dû rester au bar, j'imagine.
L'objectif d'Olivier de ramener un gymnaste, hein, maintenant.
Ah oui, si Olivier nous ramène Thomas Zone, par exemple.
Ouais, mais Thomas Zone, il rentre à Paris, ça va être dur quand même.
Ah, dommage,
compliqué. Et bah, il est là le défi.
Bon, Didier, bonsoir.
Pardon, Didier, excuse-moi, on a fait une bataille avec Olivier pour ramener.
Non, mais aucun souci, ça fait toujours plaisir de voir qu'on bataille un peu. C'est la famille du sport.
C'est clair.
Exactement. Bon, Didier, on a suivi évidemment toute la journée les péripéties de l'équipe de France de hand. Est-ce que vous considérez-vous qu'une médaille d'argent, ça reste des jeux réussis pour l'équipe de France de handball?
Bah, c'est sûr que l'équipe de France a toujours été habituée à avoir des médailles d'or, donc ça, c'est forcément une déception.
Oui. Vous nous avez fait bouffer du caviar, alors évidemment maintenant on n'est pas habitué nous.
Bah, c'est sûr que passer du caviar aux œufs de l'autre, c'est différent. Mais c'est vrai que pour pouvoir perdre une finale, il faut y arriver. Donc il faut quand même remercier quand même tous ces joueurs qui ont eu 2 mois de sacrifice. Pour les avoir accompagnés, je sais que ça a été vraiment très très compliqué. À ce jour, être vice-champion olympique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc vaut mieux quand même prendre ce qu'il y a à prendre, et demain on verra de quoi l'avenir est fait.
Bon, de quoi l'avenir est fait? L'avenir, on le connaît, c'est une compétition en France, donc l'avenir, il est quand même tout tracé, là.
L'avenir est tout tracé. Certes, aujourd'hui, l'heure est à la célébration. C'est sûr que c'est difficile de célébrer une médaille d'argent, mais je tiens quand même sincèrement à les féliciter, parce que j'ai vraiment participé, en fait, à cette préparation, et c'est vraiment très, très difficile de faire énormément de sacrifices durant 2 mois, être jusqu'au dernier jour avant la cérémonie de clôture, justement, des Jeux Olympiques, et être la dernière équipe, on va dire, médaillée. Je pense que c'est vrai qu'il y a une grosse déception, mais je pense que être vice-champion olympique, si on nous l'avait dit au départ, je pense que l'équipe de France aurait signé.
T'es sûr? Non, mais parce que là je suis pas d'accord avec toi. Je pense que l'équipe de France, elle était là pour l'or.
On était là pour l'or. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propos qui ont été tenus. Et on a parlé de triple historique.
Oui,
on a parlé d'énormément de choses. Mais il faut retenir quand même qu'il n'y a que 6 joueurs cadres. Donc 6 joueurs qui ont déjà gagné les Jeux Olympiques. Donc il y en avait 9 qui n'ont jamais gagné les Jeux Olympiques.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on est quand même d'accord que c'est quand même l'or que vous cherchiez. Et les cadres ont été excellents.
Mikael Guigou était excellent. On a vu un Daniel Narcisse qui nous a sauvés contre l'Allemagne. Et moi, je dirais plus qu'il nous a sauvés contre l'Allemagne. Et que si on avait été aux prolongations, peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Donc, je pense qu'il faut plus positiver, justement, et tirer les conséquences de cette défaite. Et justement, essayer d'être plus fort, notamment au mois de janvier, parce que ça va pas forcément être facile.
C'est le physique un peu qui a pêché là sur cette finale. On les a sentis un peu fatigués.
Oui, ils étaient fatigués. Oui. Les joueurs étaient très fatigués. Daniel Narcisse va avoir 37 ans cette année. Oui. Nicolas Karabatic, c'est plus le jeune Nicolas Karabatic, il a 32 ans. Donc la jeune génération en or, qu'on peut dire qu'est la génération 84, ils ont tous 32 ans. Et le jeune Thierry Omeyer a 39 ans, il va faire 40 ans au mois d'octobre.
Excellent.
Donc c'est vous dire qu'on peut parler d'experts, on peut parler d'expertise, on peut parler de notoriété, on peut parler de titres, on peut parler d'experts, mais l'équipe de France, il y a un renouvellement qui est fait, certes. On peut voir par exemple à l'image du jeune Ludovic Fabregas qui a 20 ans et qui a fait une très belle demi-finale. Donc l'équipe de France a toujours le renouvellement, mais on peut aussi pêcher et finir vice-champion olympique. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très positif aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on se prépare quand même, Didier, à un changement de génération après le mondial en France quand même, parce qu'il y en a ça. Là évidemment, il y a une échéance qui est à court terme, donc tout le monde va continuer, j'imagine.
Je pense que tout le monde va continuer pour participer au mondial 2017. À l'issue du mondial 2017, il y a Daniel Narcisse qui est censé arrêter, ou s'il continuait, il ferait maximum 1 an, et Thierry Omeyer 1 an. Donc Tokyo, faut oublier. Donc ce qui veut dire que l'équipe de France a vraiment un renouvellement, et il va falloir vraiment être costaud dans les prochaines années, puisque c'est sûr qu'on a été très mal habitué, puisque l'équipe de France vise que les médailles d'or.
Et dans les cages, surtout un Thierry Omeyer qui s'en va. Enfin, moi, je sais pas, tu vois, quand j'entends ça, je me dis derrière, alors bien sûr qu'on a.
Tu sais, les gardiens au monde, ils peuvent venir vieux. Hein. Je me souviens de Lavrov, il avait quel âge, Lavrov
quand Lavrov, il a arrêté à Athènes. Et il avait
russe.
42 ans.
Ouais, mais Titi, il a dit qu'il n'irait pas jusqu'à Tokyo.
Quand tu voyais sa tête, il avait l'impression qu'il avait 48, mais bon.
Titi n'ira pas à Tokyo.
Non, mais excellent, mais quand on le voit, parce qu'il est quand même un des hommes des matchs. Là encore ce soir, je sais plus, il fait 12 arrêts quoi dans le match. D'ailleurs, même quand tu fais 12 arrêts, à un moment, tu dois gagner un match parce que le gardien est vraiment prépondérant dans un match en handball.
Bien sûr, prépondérant. Mais je pense qu'à ce jour, on a manqué de relais. On a eu des cadres qui ont répondu présent, qui avaient forcément envie. Mais je pense que c'est une équipe aussi qui a besoin de maturité, puisque nos jeunes ne sont pas encore arrivés à maturité. On peut aussi se rendre compte que la jeune équipe d'Allemagne est très audacieuse. Et c'est une équipe qui a une génération 95-93. Et on se rend compte quand même qu'on a buté face à eux. Et c'est quand même difficile. Donc l'Allemagne a de très belles années devant elle. L'équipe de France a brillé durant beaucoup d'années. Et on se rend compte quand même que à ce jour, à l'époque, on avait France-Croatie. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a 6 ou 7 nations fortes au niveau international. Donc ce qui veut dire que le handball mondial augmente au niveau des puissances. Et je pense que l'équipe de France, dans les années à venir, devra justement être beaucoup plus technique et anticiper l'avenir.
Un mot sur les nouvelles règles, parce que il y a certains joueurs qui râlent et qui disent cette nouvelle règle là qu'on nous a mis, donc la possibilité de mettre 7 joueurs de champ, ça pose un vrai problème, c'est plus le handball, ça change trop la nature de notre sport. Vous en pensez quoi, vous, maintenant que vous êtes sur le banc? Parce que ça vous oblige, vous aussi, à vous adapter à cette nouveauté, hein.
Bien sûr, ça change la nature du sport. Avoir 7 joueurs en attaque avec les règles, donc stratégiquement, ça pose problème. L'équipe de France a une très forte défense. Si on nous joue à 6 contre 6 durant une heure, on arrive à être stratégiquement en place. Pour vous dire tout simplement que si moi, à mon époque, il y avait eu cette règle, je n'aurais pas pu jouer au handball. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir 7 joueurs en attaque nous m'aurait obligé à défendre en permanence en 0-6, alors que notre point fort était la défense étagée. On se rend compte quand même que ça dénature le handball. Mais après, bon, forcément, il faut jouer avec les règles. Il va falloir beaucoup s'adapter. Il va falloir faire un débriefing. Il va falloir forcément tirer les conséquences, les conclusions de ces Jeux Olympiques pour essayer d'être le plus performant possible lors du Mondial 2017.
Sinon, vous vous régalez là sur le banc, là, on vous voit de plus en plus investi. Vous kiffez, quoi?
Je kiffe, je surkiffe. Ah, c'est pas mal ça, kiffer, surkiffer.
Surkiffer,
on peut même surfer, voilà. Donc, non, c'est vrai que c'est. Moi, je pense qu'il faut être fusionnel, passionnel. Moi, je dis toujours, je suis amoureux de ces joueurs. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il faut être passionné dans ce qu'on fait. Si on n'aime pas entraîner, on n'entraîne pas. Donc, sinon, on change de métier. Je suis vraiment à 200% avec eux. J'étais très déçu comme eux et j'ai été le premier, justement, à les remobiliser pour leur dire que c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait, être vice-champion olympique. Je pense que si on prend la place des Croates justement qui ont été éliminés en quart de finale, ou des Polonais qui ont terminé quatrième à ce jour alors qu'ils ont joué la troisième place pour accéder aux Jeux Olympiques, je pense que c'est quand même des situations qui sont moindres, pire, sachant que les Croates nous ont gagné en match de poule. Donc vous voyez que ça peut se jouer à rien. Donc il faut mieux plus positiver et se dire qu'on a raté un match et qu'on est vice-champion olympique que se dire qu'on a raté les Jeux Olympiques totalement.
Et petite question, question de Naz, tu sais, en fait. Voilà, si on se projette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il vaut mieux qu'on prenne le Danemark en finale parce qu'on les connaît bien et que du coup c'est plus simple parce que les Polonais sont un petit peu audacieux, etc. Et si on avait pris la Pologne, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? C'est pour ça que je dis question de Naz, parce qu'on est en train de faire.
Sincèrement. C'était peut-être l'adversaire idéal, les Danois. Mais à force qu'on entende depuis 3 mois, l'équipe de France va faire le triplé historique. L'équipe de France a peut-être la meilleure génération de tous les temps et plus talentueuse que l'ancienne génération. Que nous allons faire, que si, que mi, etc. Je pense que une chose c'est le dire, autre chose c'est le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'équipe de France est quand même arrivée en finale des Jeux Olympiques. Elle a perdu sa finale, certes, mais il n'y a pas forcément de logique. Et le sport, je pense, est quand même quelque chose de juste. Donc, si tu n'as pas mérité, tu n'as pas gagné. Aujourd'hui, on a manqué de fraîcheur. Nicolas était essoufflé. Nicolas Karabatic tire l'équipe de France à
l'autre bras. Alain Timporte aussi, qui a fait un tournoi exceptionnel. Était un petit peu mort aussi. Hein.
Valentin Porte, Daniel Narcisse. Donc, ce sont des joueurs qui tirent l'équipe de France, hormis Valentin Porte, depuis 10 ans à bout de bras. Qu'est-ce que vous voulez leur reprocher à ce jour? Si ce n'est leur dire, messieurs, merci.
Oui, et merci, bravo. Et surtout,
et
bravo.
Merci, bravo. Et demain, on verra comment on peut faire justement pour vous aider et qu'il faut qu'il y ait plus de relais.
Oui, j'ai une question pour demain, pour l'avenir, justement. Alors, tu vas me dire si je me trompe.
Attention à l'avenir, à ce que tu vas dire.
Mais je sais bien que t'aimes pas la question. Bah oui, je sais bien. Mais nous, comme on te voit sur le banc à côté de Claude Lesta, qui laisse entendre que peut-être après 2017, il quitterait ses fonctions, ça sent le coup de fil blanc que tu vas lui succéder. Mais bon, si tu vas me répondre que non, j'imagine.
Moi, je vous dis rien. Moi, je dis tout simplement que la fédération, il y a 2 élections. Les dirigeants, c'est eux qui décident. Et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il faut jamais dire
Fontaine. Ils aimeraient que ce soit toi.
Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau et je ne suis pas la fédération pour durer. Donc on verra de quoi l'avenir est fait. Si je suis élu et forcément désigné pour ce poste, je ne dirai pas non parce que c'est quand même un poste privilégié. Et donc à partir de là, on verra ce qui se passe après 2017 et je répondrai présent forcément si je suis désigné.
Non, mais avoir le respect d'un groupe et notamment là des plus jeunes, puisqu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui vont arrêter, c'est quand même prépondérant sur la personne qu'on va nommer. On sait que dans les sports co, il faut quand même que la personne fasse. Peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas, t'as travaillé sur un chemin de continuité et il y a un respect qui commence à s'installer.
Oui, ça a été sur la continuité. J'avais un fort caractère quand je jouais. Et tu
l'as toujours.
Je l'ai un petit peu. Je l'ai toujours un petit peu. C'est sûr qu'il faut forcément s'imposer, mais il faut surtout être juste, honnête. Sportif de haut niveau, ce qu'il n'apprécie pas, c'est la malhonnêteté. Donc il faut toujours être franc et avoir une règle de vie. Donc en fonction du protocole, des règles de vie, du fonctionnement d'un groupe, si on est toujours honnête, ça se passe toujours bien, parce que le joueur n'aime pas être lésé. Donc moi, je suis toujours sincère, ma porte est toujours ouverte et je dis toujours la vérité. Donc à partir de là, je pense que je ne trahirai pas. Ce qui veut dire que si le joueur me critique demain, c'est moi qui irai le voir entre quatre yeux pour lui dire justement pourquoi tu me dis ça alors que je t'avais dit la vérité. Pour moi, le sport de haut niveau doit être vu comme ça.
Didier, merci d'être passé.
Belle conclusion, en tout cas.
Et donc voilà, on reverra l'équipe de France de hand vraiment vite, parce que là, dans 6 mois, hein, il y a donc un championnat du monde en France. Et donc à suivre.
On a hâte. Ça va être le feu mieux qu'au Brésil, le championnat du monde de hand en France. Hein.
Ça va être le feu, je pense. Et c'est quand même très particulier de jouer un mondial à la maison. On sera poussé par notre public.
Le dernier, rappelons qu'il a été gagné quand même.
Le dernier a été gagné, donc c'était quand ça? C'était en 2015. Et en plus, c'était à l'extérieur. C'est vrai que l'équipe de France
en 2001, le dernier en France.
Ah pardon, parce qu'en 2015 on a gagné aussi, ouais. Excuse-moi.
Non, je parlais du dernier en France en fait. Mais comme vous gagnez
le dernier en France, oui.
Le dernier en France a été gagné. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une pression particulière, il y a un engouement et on n'a pas forcément le droit à l'erreur. On sait toujours que les joueurs se transcendent dans des moments particuliers comme ça. Donc pour l'instant, je pense que l'heure est à la célébration, même si c'est une déception d'avoir gagné une médaille d'argent. L'équipe de France doit quand même se réjouir, parce que être sur le podium aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde.
Merci Didier, merci Isabelle et bonne soirée au Club France.
Non, merci à vous, à bientôt.
À plus, wow. Merci Didier, à bientôt. Les gars, alors
on se rapproche de la fin. On a vu Thomas Barr, le président du Comité international olympique, qui a pris la parole il y a quelques instants et qui vient, selon ses mots, d'accomplir sa dernière mission ici aux Jeux Olympiques de Rio, puisque il a officiellement clos ses Jeux Olympiques, ses 31e Jeux Olympiques. Donc, et là, on est en train d'assister à l'un des derniers tableaux de cette cérémonie de clôture.
Tiens, Georges, rapidement sur les déclats de Thomas Barr, intéressante, qui dit qu'il laisse un Rio en meilleure condition qu'avant les Jeux Olympiques. Il y a eu la moue dans les tribunes, ça n'a pas sifflé, mais ça n'a pas vraiment applaudi. Ouais. Il a qualifié ces Jeux Olympiques de merveilleux. On verra dans un an, pour ceux qui reviendront ici, s'il laisse un Rio en meilleure condition.
Il est qualifié de merveilleux en rappelant que le surnom de Rio était la cité merveilleuse qui est en train d'être célébrée là actuellement. Donc dans ce tableau, il y a des figurants qui sont déguisés, alors je sais pas en quoi, en végétaux, en fruits, comment on les appelle, ils sont en fleurs, je sais pas, en tous les cas il y a de la couleur partout sur le terrain, rouge, vert.
Télétubbies. En attendant nos prochains invités au Club France, un petit jeu. Je vous donne des citations de quelques-uns d'entre nous, quelques-uns d'entre vous, quelques-uns de nos consultants.
Ça peut être toi,
ça peut être moi, ça peut être Nico.
Est-ce que tu peux sortir une phrase de Gilbert Bribois par exemple? Incroyable.
Attention, c'est une sorte de Kikadi.
Donc tu vois les auteurs à chaque fois.
Hein. Kikadi, Nicolas contre Georges. Attention, vous êtes prêts? Kikadi, les volontaires dans ces jeux, ils font les planctons.
Sarah Pitkowski.
1-0. Oui, papa. Les planctons.
C'est bon ça.
C'est bon. Kikadi.
Excusez-moi, je suis en train de chanter.
Kikadi. Allez, ok, elle a des cheveux.
C'est Leandra Leal.
Marianne de Castro.
Non, Marianne de Castro, ouais.
Star ici au Brésil.
Il y a une coupe afro très impressionnante. Kikadi, est-ce que cette défaite vous met en confiance?
Giuseppe.
Ça fait 2-0. C'est énorme comme question, ça. Est-ce que cette défaite vous met en confiance? C'est après la défaite face aux Américains.
3 points. Elle est cohérente.
Attention.
On fait quoi, Siafani?
Ah, s'il a fallu, tu lui mets un gage.
Celui qui perd doit aller éteindre la flamme olympique.
Qui d'ailleurs a toujours lui.
Avant.
Qui a dit, Dans cette équipe d'Estonie, il y a trois sœurs siamoises.
Plaisanterie, plaisanterie, plaisanterie.
François Plaisanterie, Vicomte 3-0.
Je trouve que c'était une très belle phrase.
Quel faillot celui-là.
Moi je comprends pas aller où l'erreur.
C'était très juste.
Attention, dans les saucisses de notre Dream Team, qui a dit le français n'est pas qualifié et qui a dit en antenne ah merde, en fait la course n'est pas finie, elle continue.
Marie Zéman GP.
Non.
Kémy Gelpi.
Non.
Un consultant.
Non, un journaliste.
Pierre Dorian.
Non, il a
Julien Richard.
Julien Richard.
Oui, c'était sur. C'était sur l'avion.
À l'antenne, il dit ça.
Je vous raconte l'histoire. On est en pleine nuit, en plus il est dans l'avion, il n'entend pas. Canoë kayak en ligne. Demi-finale, un bateau français est là. Et Julien hurle à l'antenne. Oh, éliminé, malheureusement. Et en fait, les bateaux continuent. Et là, il éteint son micro et il dit oh, bah merde, il continue.
Bon. Alors qu'il faut qu'on soit attentif parce que.
Le résultat n'a pas changé.
La chanteuse Léandra Léal est en train de chanter, évidemment. Avec la pluie, derrière elle. Alors, je crois que c'est une pluie artificielle. Hein. C'est une pluie artificielle et je me demande si c'est pas ça qui va éteindre dans quelques instants.
Ah oui, t'as raison, Jean.
Le chaudron olympique si. Parce que l'eau, la pluie est en train de se rapprocher de ce chaudron. Donc. Pour peut-être clore définitivement ces Jeux Olympiques de Rio dans quelques instants.
Et il est 3h25 du matin, hein, donc on approche de la fin de cette cérémonie
qu'il pleut beaucoup.
Qui est prévue de s'arrêter à 3h30. Mais nous, on continue jusqu'à 4h ici en direct du stade parce qu'on est comme ça. Et parce qu'on a encore plein d'invités à venir en direct du Club France. Donc, la flamme est toujours allumée. Je continue notre petit jeu pour Nicolas.
Oui, parce que le perdant doit éteindre la flamme.
Qui a dit dans ces Jeux Olympiques moi, je suis là pour informer, je suis le garant des
démocraties. C'est moi.
C'est lui.
Ah ouais, mais.
T'as demi-point. T'as tout noté, toi.
Le garant de la démocratie, le mec. Qui a dit il faut absolument juger le jugement des juges.
Pierrick Ten.
Non.
Morgan Morin.
Non.
Je le sais ça.
Non.
Il faut
absolument juger le jugement des juges.
C'est un journaliste.
Un journaliste des RMC.
Julien Richard.
Pierrick Ten.
Non, mais non, tu l'as déjà dit.
Mais attends. Juger le jugement des juges.
Ça va être. C'est pas Anton Arlo.
Non plus.
C'est un journaliste. Alors que
la flamme s'éteint.
La flamme olympique est en train de s'éteindre. La pluie qui était juste au-dessus de la chanteuse de Léandre Léal, cette pluie artificielle qui a reculé pour arriver jusqu'à la vasque olympique, donc qui vient de s'éteindre, donc le feu qui se rallumera dans 4 ans à Tokyo.
Mais c'est Pierre Ken qui a dit ça.
Non,
c'est incroyable.
C'est, son prénom démarre par un L.
Loïc Braillet.
Loïc Braillet.
Ah oui, genre. C'est ça.
4-2.
Merci Rio,
exactement. Nous, on reste, on continue. Attention. Qui a dit. Et encore dans cette équipe, ils n'ont pas Kobe Bryant et Tim Duncan.
Jean-Pierre Ciotta.
Oui, Rodolphe,
c'est là de nulle part. Donc ça fait.
Qu'est-ce que j'avais braillé. Alors du coup,
4-2-1.
Voilà. Donc tu as un point.
Attention, Rodolphe peut remonter. Hein.
Rodolphe qui vient d'apparaître.
Qui a dit dans ces Jeux Olympiques, à l'antenne des RMC, il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre dans sa passion.
Jacques Monclar.
Non,
Thierry Guimard.
C'est un président d'une fédération qui n'a pas vraiment réussi.
David Lapartien, Francis Suisse,
Et le feu d'artifice ici, bravo, Rodolphe passé. Feu d'artifice. Au-dessus du stade Maracana, rouge, jaune.
Pour la réponse de Rodolphe
passé. Pour célébrer cette victoire, effectivement. Cette victoire du peuple brésilien et de Rodolphe passé.
Qui a dit Émilie, au départ, son sport, c'est pas le judo, c'est
Morgane
la danse.
Morgane Maury.
Non.
Marie-Zéon, j'ai fait.
Non.
Quelqu'un d'RMC, là, on est pas journaliste.
Jean-Claude Sonneau.
Non. Émilie, au départ, son sport, c'est la danse.
Son frère.
Pas le judo.
Son frère.
Presque.
Son cousin.
Son mari. Son copain.
Son coach.
Son père.
Sa cousine.
Son petit frère. C'est de la famille, mais vous l'avez pas cité.
Son parent. Sa mère.
Sa mère.
Alors que la samba ici est en train de résonner pour la bonne réponse de Rodolphe Massé, vous l'entendez évidemment ce groupe de
attention, on l'a toujours pas vu peler, messieurs. Il était pas là, lui.
Alors que là, c'est ambiance carnaval de Rio.
Ouais, même dans la tribune officielle, là. Ils ont dû faire tourner les Caipirinhas dans la tribune officielle.
Champagne depuis 3h, champagne.
Attention.
Thomas Barr qui a fait sa veste.
Et où est passé le Premier ministre de la France? Il a disparu, je suis
alors, vas-y, je viens de ce jeu-là.
4 points pour Nico, 3 points pour Rodolphe, 2 points pour Georges. Qui a dit, dans une épreuve de ces Jeux Olympiques en direct, elle va tenir, elle ne flanchit pas.
C'est moi, c'est
Nicolas.
Mais t'as pas le droit,
horrible, horrible. Je tiens à dire que Julien Richard l'a dit deux jours plus tard. Julien Richard m'a repris. Elle ne flanchit pas.
C'est un recours qui est
Alma Zayana. C'était Alma Zayana. Et il m'en reste un. Horrible.
Qui a dit super banco.
Qui a dit
non.
En gagnant un point décisif au quiz. Oui, c'est ça, ma gueule.
Nicolas Jamin. Oui, c'est ça, ma gueule. Ma gueule qui était ce soir-là, Marie-Zébranger-Fait. Heureusement que ça passait très tard.
C'est n'importe quoi. Victoire de Nicolas, quand même.
Et ben voilà, il en aura gagné un. Bon, voilà. c'était le meilleur moment de ces jeux, les quiz, hein, quand même, hein, je tiens à le dire.
Ouais, ben, en même temps, il était 3h du matin.
Attends,
je pense mieux que toutes les
épreuves. Je peux vous poser la question. Je suis pas encore mal, mais je vais vous la poser la question. Georges, c'est quoi le meilleur moment de tes jeux?
Le meilleur moment des Jeux Olympiques? Ah. Je vais être avec vous maintenant tout de suite.
Non, allez, vas-y, ça arrive. Non.
Mon meilleur moment des jeux. Est-ce que tu as le tien? Comme ça, je vais réfléchir au mien tout de suite.
Moi, c'est le. Ben, on l'a vécu ensemble, Gilbert, quand même, un moment incroyable et irréel. C'est la victoire du Brésilien sur la perche. Quoi.
Ah ouais, c'est
totalement
vrai.
Totalement dingo.
Ouais.
Qui bat son record personnel aux 10 cm. Thiago Braz da Silva. C'est pas un Français, c'est un Brésilien, mais.
Et toi, c'est quoi alors, Georges?
Des épreuves qu'on a vues, quoi, en fait. Hein,
non, ou une rencontre dans la rue.
Une nuit passée sur les sites olympiques parce qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose.
Il gagne du temps, allez.
Je sais pas. À la piste, il s'est passé beaucoup de choses.
Qui vient là maintenant là.
Qui vient là tout de suite. C'est une grande tour.
J'ai appelé les jeux de la loose quand même.
Et moi, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vécu trop de moments en cyclisme. Hein.
Moi, je pense que c'est le combat de Émilie Andéol.
Commenté par Morgan Maury.
Tu y étais?
Oui, j'y étais. J'étais dans la salle. Et en fait, tout le monde attendait Riner. Alors, mais non, Riner, depuis 6 mois, tout le monde est là. Et en fait, elle est arrivée là comme un cheveu sur la soupe. Et pam! En fait, c'est elle qui a créé l'émotion. C'est au fond, plus que Riner.
Ouais.
Ce jour-là.
C'est vrai. C'est bon, je me souviens de mon moment. Alors, moi, je suis très cérémonie, hein, j'avoue. Hein. Donc, j'aime
Guga.
Voilà, exactement. J'ai repensé même encore ce matin à l'image de Gustavo Kuerten qui rentre sur la cérémonie d'ouverture avec la flamme olympique. Et il avait du mal à courir, il était en train de pleurer, en même temps il souriait à la Guga. Quoi. Voilà, donc super ému pour l'arrivée au club Maracana. Ouais, c'est ça, c'est Guga.
Et toi, Rodolphe?
Émilie Andéol et Cyril Marais, ces deux médailles, des moments d'émotion. Et en plus, voilà, je vais parler des RMC, mais les commentaires de Morgan Maury m'ont personnellement fait chavirer. Et il y a un autre moment d'antenne que j'ai adoré. Et je pense que Gilbert va savoir à quel moment je fais référence. C'est quand on a eu Brahim Asloum l'autre soir en direct.
Ah ouais,
c'était un très très grand moment. Et voilà, moi c'est les moments. Bon, et moi je suis pas allé sur des sites, donc je peux parler que de ce que j'ai entendu et de ce que vous nous avez fait vivre. Nous tous les anchormans et commentateurs, et du coup voilà, Morgan Maury sur les commentaires de judo et le moment de Brahim sont des grands moments.
Ah oui, Brahim il a chialé pendant une heure. Mais d'émotion, hein, d'émotion de. Voilà, parce que la boxe réussissait et il était à la fois en colère et ému de la réussite des Français et en colère parce qu'il explique à juste titre, je pense, que son sport n'est pas reconnu comme il devrait l'être et qu'on prend souvent les boxeurs pour des cons, voilà, parce qu'il le dit comme ça. Alors que c'est un sport qui pourrait avoir un rôle beaucoup plus important aujourd'hui, et donc au quotidien, auprès des jeunes, dans les banlieues, ailleurs, bref, voilà.
D'ailleurs, il avait interpellé le secrétaire d'État au sport.
D'ailleurs, aujourd'hui, Thierry Braillard a annoncé la création d'une ligue professionnelle de boxe en France.
Voilà.
Puisque Fabrice Ciozo a rendu un rapport donc à Thierry Braillard, le secrétaire d'État. Et dans ce rapport, on peut voir qu'en France, il y a 200 boxeurs professionnels et qu'il n'y en a que 4 qui arrivent à vivre de leur sport. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de combats. D'où la création d'une ligue professionnelle. Et donc, voilà un premier pas vers le redéveloppement de la boxe, en quelque sorte, en France, qui sera quand même légèrement disparu.
Et les flops des Jeux Olympiques, alors les plus mauvais moments.
Ah bah le vélo, cher ami.
Oui, non,
ah mais
non,
d'accord, alors.
Le moment.
Ton pire moment des Jeux.
Ah, bah alors moi, je sais.
Tu sais pas tout à l'heure en taxi, là.
en numéro 1. En numéro 1. Non, mais non, le pire moment sportif, et je suis sûr que Nico va être d'accord avec moi d'ailleurs, c'est la tristesse de la fin de carrière de Tony Parker quand on a le basket. On y était pour le France-Espagne, le quart de finale. Ah oui. Le quart de finale. Il s'est rien passé dans le match.
Passé.
Il s'est rien passé.
Pas du tout.
C'était écrit que dès la première minute que ce match allait terminer comme ça. Et ben voilà, en fait, Tony Parker a quitté l'équipe de France comme ça. Voilà. Sur pas grand chose. C'était un peu, ça avait un peu tout. On n'a même pas senti un moment d'émotion, ni rien, c'était juste fini. On a eu l'impression qu'on se mettait dans l'Arena Carioca 1 après cette défaite de l'équipe de France cinglante face aux Espagnols. Ouais, et puis tous les mauvais moments du cyclisme, évidemment. Tous enfilés les uns après les autres. Julien Absalon qui n'y est pas. L'abandon de tous les coureurs de DNX. Julien Alaphilippe qui est quatrième au pied du podium ceci, mais sur route. Tous les pistes arrivent à sa côté. Sauf
la vu que le DTN a dit le chantier prioritaire c'est la piste.
Bah oui. C'est normal hein, parce que là le chantier est faramineux. Il y a des problèmes humains, des problèmes structurels. Il faut tout changer pour revenir au plus haut niveau à Tokyo 2020. Mais il y a des plus jeunes hein, derrière quand même qui suivent et qui vont peut-être pouvoir remplacer les Bogé, les Pervis, les Dalmeda pour dans 4 ans, ce sera peut-être un peu juste. Hein, mais pour Paris 2024, on l'espère que ça arrivera à temps pour quand même redorer le blason de la piste qui a été d'ailleurs dépassée. Tu sais que la France était depuis des années, depuis le début des Jeux Olympiques, la nation qui avait le plus de médailles en cyclisme sur piste, et ils ont été dépassés sur ces jeux par la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont 9 médailles à chaque fois. Donc maintenant c'est de l'histoire des Jeux Olympiques, c'est la Grande-Bretagne qui l'a plus titré en cyclisme sur piste.
D'ailleurs on n'a pas fait de point, on peut le faire quand même rapidement, sur le tableau final des médailles, parce qu'au niveau de la géopolitique du sport mondial, on a quand même un tremblement de terre.
Ah bah la Grande-Bretagne, hein.
Ah oui,
incroyable.
La Chine est en chute libre, premier à Pékin du tableau des médailles, deuxième à Londres, troisième ici. À une médaille d'or près, ça joue pas à grand chose hein, quand même, à une médaille d'or près, les Britanniques sont devant les Chinois. Alors que les Chinois ont quand même gagné plus de médailles, 70 au total, que les Britanniques, 67.
Moi ce que je trouve incroyable quand même, c'est le nombre de médailles d'or des Britanniques.
Alors justement,
27 médailles d'or sur leur 67.
Rends-toi compte,
c'est le métal qui vend le plus.
De la progression de la Grande-Bretagne en 20 ans exactement. En 1996 à Atlanta, la Grande-Bretagne, c'est une médaille d'or seulement, 15 médailles au total. En 20 ans, il passe 10 médailles d'or à 27 médailles d'or. Évidemment, l'essai Londres 2012 a eu des conséquences, bien sûr. On a explosé à Londres et ça se poursuit. Et les Brésiliens, d'ailleurs, misent là-dessus. Hein. Ils espèrent justement relancer leur sport olympique grâce, malheureusement, à la réussite n'est pas la même.
Et pour en avoir parlé avec beaucoup de journalistes britanniques au Vélodrome, notamment parce que le cyclisme sur piste est peut-être l'un des symboles de la réussite britannique. Donc, tu disais, après l'échec d'Atlanta, ils ont énormément investi dans les sports, en fait, où ils étaient déjà traditionnellement plutôt bons. Le cyclisme, l'aviron notamment, et les trois autres sports, des petits sports où ils se sont dit allez, on va mettre le paquet là-bas, on va mettre de l'argent pour aller chercher des médailles d'or. Ils n'ont pas investi en fait dans les sports de masse, les Britanniques, ni dans le basket,
dans les sports à
médailles, ils ont investi dans les sports à médailles avec notamment la loterie nationale qui a donné beaucoup d'argent à ces sports là ça marche aujourd'hui.
Ils ont amélioré leur point fort.
Là c'est carnaval hein. Là c'est Sambodrome, c'est carnaval de Rio.
Et alors dans
les 10 premières nations, signalons quand même le Japon, parce que dans 4 ans on sera au Japon. Le Japon n'était pas aussi bien classé il y a 4 ans, ils sont 6e là. Les Japonais, la Corée était dans les 6 premiers il y a 4 ans, la Corée là est derrière la France, la Corée du Sud. Et le Japon là, 40e médaille quand même hein, les Japonais.
Et la médaille la plus incroyable, vous y avez assisté, je pense que c'est le relais 4x100 mètres japonais qui a fait la médaille d'argent derrière l'argent.
C'est
incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Les sprinteurs japonais n'étaient pas forcément les
connus. Le Brésil, pour conclure quand même, pays organisateur qui a battu son record. Bon, c'est traditionnel, on bat toujours son record quand on est l'organisateur parce que il y a une espèce de folie qui s'empare des athlètes. 19 médailles au total, ils n'avaient jamais fait aussi bien hein, les Brésiliens dans leur histoire olympique. Donc
ils finissent quand même sur deux sports favoris, le football et le volley. Ouais. Là où on les attendait quoi. Et le beach volley également.
Mais attention hein, parce que dans les sports co, c'est pas eux qui ont été les plus efficaces. Le pays le plus efficace,
ce serait pas la Serbie.
C'est
ou...
la Serbie.
Ouais, c'est ça.
La Serbie, c'est incroyable.
Finale basket homme, volley, championnat olympique volley féminin.
Ils ont gagné le waterpolo chez les hommes. Ils sont médaillés d'argent au basket masculin et volley féminin. Ah oui. Et ils sont médaille de bronze au basket féminin.
Ah oui. Donc, le basket c'est pas surprenant après, mais
c'est culturel.
Voilà, deux médailles au basket, une médaille au volley, enfin voilà, en termes de sport co.
Les Serbes qui ont battu les braqueuses, nos Françaises sur le match en troisième place. D'ailleurs on était avec les Serbes hier soir au restaurant à Rio, qui ont célébré jusqu'au bout de la nuit ce sacre, cette médaille de bronze. Et d'ailleurs ils sont sortis, ils ont dit, on est désolé, on aime bien les Français, hein, mais.
Donc deux informations, ce que je viens de dire. Et l'autre information, c'est que tu vas au restaurant, toi.
Voilà. Alors que nous
on est jamais au restaurant.
C'est la seule fois depuis l'été en plus.
C'est vrai. Je sais même plus ce que c'est, moi, le resto. C'est 15 jours qu'on bouffe des hot dogs. Il y en a marre.
Dans notre esprit, c'est terrible.
Bon. Alors, d'ici 4 heures, après, on va passer le relais à Pierre Dorian et à Charles Magnin. Enfin, ce sera à 4h30 ce soir, puisque vous savez que officiellement, à 4h30, c'est la rentrée des RMC. Et oui, ça me permet de faire une petite annonce quand même. Oui, tout à l'heure, retour du Super Moscato Show tout à l'heure, arrivée de Roselyne Bachelot, et puis arrivée du team Duga également, donc à 18h tout à l'heure sur RMC. Voilà, c'est la rentrée officielle. Juste après les Jeux Olympiques, on enchaîne directement. Retour de l'after aussi ce soir.
Avec quoi?
Avec Daniel Riolo, avec.
Et demain soir?
Laurent Gautreau. Non, pas avec moi, ben là, ça va être difficile. Avec Nico Lavias, qui sera aux commandes de l'after,
l'homme de l'euro
ce soir, l'homme de l'euro, exactement. Comme il est champion d'Europe, on s'est dit bon quand même.
Voilà. Alors qu'un feu d'artifice en forme de cœur vient d'être tiré au-dessus du Maracanã.
Genre, je ne sais pas ce que tu es en France.
Bouquet final.
Je ne sais pas ce que tu es en France. Mais ça ne vaut pas le carnaval de Nice.
Oui, c'est vrai, avec ce perroquet papier mâché.
Ouais, des années 80.
Qui est devant nous là sur
les athlètes qui vont se mêler justement aux danseuses de carnaval de samba. Voilà, belle image pour finir. Tous les athlètes, ou presque, hein, notamment les Britanniques, qui se lèvent de leur chaise et qui se dirigent en courant pour aller danser la samba. Ouais, c'est une belle image. Alors les Français, je ne vois pas. Messieurs, les Français, je ne sais pas où ils sont actuellement. Mais j'imagine qu'eux aussi vont se mêler à la danse. Ouais, j'en vois quelques-uns là-bas, notamment. Il y a les Grecs aussi. Les Anglais énormément.
On a vu quelques-uns des Français, hein. Jérémy Stravius tout à l'heure, le nageur, Loïc Louvel, la médaille d'argent du pentathlon moderne, Teddy Riner évidemment, avec le drapeau. Et il y en a beaucoup qui doivent être au Club France aussi à faire péter ça.
D'ailleurs Isabelle et Olivier ont disparu.
Ils ont fait la poule là,
je dois se passer des trucs louches au Club France. Alors, on va se quitter quelques instants et ensuite on va revenir et on va vous faire revivre les directs de quelques-unes des grandes médailles de ces Jeux Olympiques. Parce que oui, c'était aussi beaucoup d'émotions ces médailles. Il y en a eu 42. C'était un record pour l'équipe de France Olympique. 42 médailles. 42 médailles, on avait déjà fait ça. Mais dans des jeux d'un autre temps. Hein, donc au début du XXe siècle, quand la France avait des médailles en littérature et en saut à la corde. 42, c'est un record. On va en revivre quelques-unes de ces médailles dans quelques instants avec vous dans l'intégrale olympique sur RMC. À tout de suite.
RMC intégrale Rio 2016, Gilbert Bribois.
Et voilà le bouquet final. À vrai dire, depuis 10 minutes, il y a un bruit incroyable ici au Maracanã.
Si on nous entend.
On avait du mal à s'entendre entre nous, entre Nicolas Georges et moi. Mais on est là. Évidemment, cette cérémonie de clôture va se terminer dans quelques instants. Et comme promis, on va se revivre quelques-uns des grands moments de direct. Les médailles, tiens, il y en a que vous avez peut-être oublié. L'une des premières médailles d'or de ces Jeux Olympiques pour la France, c'était celle de Denis Gargaud. Et c'était le 9 août dernier, avec donc le successeur de Tony Estanguet, Denis Gargaud, médaillé d'or, tout ça avec Pierrick Ten dans les tribunes, écoutez.
Allez Denis, il faut tout donner là maintenant. Allez, Denis Gargaud, allez c'est parti pour le 21e portant, le voile est juste devant nous, il ne reste plus que trois portes, la dernière à contre-courant, c'est la porte 22, Denis qui est toujours en tête, pas de faute, Denis qui va pouvoir passer, passe maintenant la 23e porte, la 24e porte, elle est juste devant lui, après il va falloir mettre un bon vieux coup de paillet, on va surveiller tout de suite le temps de Denis Gargaud, est-ce qu'il sort le podium, est-ce qu'il va sur le podium, attention, et c'est bon, Denis Gargaud est champion olympique, il succède à Tony Estanguet qui remporte la deuxième médaille d'or pour la délégation française aujourd'hui.
Voilà, ça c'était Pierrick avec Gargaud. Tiens, Agbeniénou, médaillé d'argent en finale, c'était avec Morgane Maury.
Et elle craque, la Française a craqué, nouvelle immobilisation en faveur de Ter Stegen Jacques dans 20 secondes. Ce sera terminé. Ce sera terminé. Il faut se mettre à plat ventre, Caris. Il faut rouler. Tenter une roulade. Tenter quelque chose. On est pratiquement au bout. Dans 5 secondes, ce sera fini. Clarisse qui a abdiqué. Elle est sur le dos. Elle ne sera pas championne olympique. Le titre est pour la Slovène. Ter Stegen Jacques a pris 1 minute et 45 secondes. Médaille d'argent pour la Française qui fait la moue. Elle est battue par la Slovène, meilleure qu'elle sur ce match.
Alors, ça c'était donc Clarisse Agbegnénou. Je voulais également vous faire réécouter la médaille d'or de Charline Picon. C'était à la planche à voile. Et là c'est Camille Gelpi qui était au bord de la baie de Guanabara et qui regardait ça à distance, mais qui ne ratait absolument rien.
Allez, on voit les bateaux là, on voit les bateaux des juges. Charline, t'es plus qu'à quelques mètres de ton rêve olympique. C'est énorme ce que t'es en train de réaliser. Vas-y Charline, allez, allez. La chinoise qui est derrière, la chinoise elle reviendra pas.
Championne olympique,
Camille. La ligne finish, je la vois. Et Charline Picon va être championne olympique, je vous le dis. Allez Charline, plus que quelques mètres. C'est les mètres les plus douloureux, mais en même temps les plus de plaisir que Charline est en train de vivre. Allez Charline, fais-le, fais-le. C'est parti, allez, plus que quelques mètres. Et Charline Picon est championne olympique. Charline Picon, reine de l'église. Charline Picon, championne olympique, elle n'en vient pas. Elle met sa main sur ses cheveux, sur sa casquette. Elle n'en vient pas, Charline. Elle est en train de tomber sur sa planche. Elle embrasse sa planche à voile. C'est énorme ce qu'elle vient de réaliser, Charline. Charline Picon, championne olympique de RSX.
Et voilà Camille pour cette médaille d'or de Charline Picon. Alors, il y a aussi eu des médailles à la boxe, bien sûr, vous le savez, nombreuses. Et la première médaille d'or d'argent, ça a été Sofia Noumia. On attendait l'or pour Sofia Noumia, il a eu l'argent et Morgane Maury était sur zone.
C'est parti, 3 minutes, premier round des moins de 60 kilos, la finale olympique. Sofia Noumia, le premier en action avec sa gauche et sa droite, et derrière la réplique de Robson Concessant. Là ça va être très dur, ça va être très dur avec la foule, tu sais, ça pèse sur les arbitres, ça pèse sur les juges. C'est possible pour Sofia Noumia, il a le talent, il peut le faire. Concessant toujours avec son direct du gauche qui est mortel, il part en crochet derrière mais c'est bloqué. Sofia qui s'accroche, il est en difficulté dans ces quelques instants, et Mariano Gonzalez qui lui demande de bien se protéger, de monter un tout petit peu sa garde. Concessant qui travaille au corps et qui remonte au visage, il a esquivé juste ce qu'il fallait. Le français, attention, il est déséquilibré, il ne va pas au tapis, c'est une glissade, le public qui s'enflamme. Le deuxième round est également pour Robson Concessant, c'est très mauvais pour Sofia Noumia qui s'appuie sur les cordes. Il a 3 minutes pour faire la différence, c'est possible, il a l'œil. Sofia Noumia qui essaye de passer le turbo, Concessant qui se contente de gérer, petit jeu de jambes pour provoquer le français. Le travail au corps, allez Sofiane, il peut le faire, il peut renverser l'histoire. 10 secondes pour le faire, la série de crochets de Sofia Noumia, ça ne touche pas le public qui fait le décompte. Les trois juges ont vu le même vainqueur, c'est Robson Concessant qui tombe à genoux. Sofia Noumia qui se pince le visage, la main devant les yeux, il doit être en train de pleurer le Toulousain. Il ne sera pas champion olympique à Rio de Janeiro.
Allez, je vous en diffuse encore deux là. Tiens, Nicolas Jamin qui nous annonce, attention, attention.
Christophe Lemaître quand même.
Non, Kevin Mayer.
Ah ouais.
Kevin Mayer, c'est parti, médaille d'argent.
65 mètres 04 pour Kevin Mayer.
65 mètres 04, autant dire
04
que je peux vous dire que là, la médaille d'argent, c'est fait.
Il n'y aura pas de suspense dans ces 50 derniers mètres. Il est fort, il est costaud. C'est le meilleur du monde, c'est le recordman du monde, c'est le champion du monde. Ashton Eaton va être sacré champion olympique de décathlon. Kevin Mayer sera quelques mètres derrière lui. Il souffle Ashton Eaton, mais il a mérité amplement sa médaille d'or. À 5-6 mètres derrière lui, il y a Kevin Mayer en 4 minutes et 26 secondes. Mais il lève les bras, Kevin Mayer, parce que c'est tout de même une médaille d'argent. Il aurait signé le français pour la deuxième place olympique ici. Les pommes vers le ciel, tournées vers le ciel, celle de Kevin Mayer, vice-champion olympique de décathlon. L'étreinte avec l'américain Ashton Eaton. Une médaille en décathlon pour un français, ce n'était plus arrivé depuis 1948.
RMC, radio officielle de l'équipe de France Olympique.
Tiens, le maître, tu voulais le réécouter ?
Ah oui.
C'est cadeau.
C'est parti pour la finale du 200 mètres masculin. L'excellent départ d'Usain Bolt qui va avaler Christophe Lemaitre dans ce couloir numéro 7. Usain Bolt qui enchaîne et qui va sortir en tête du virage. Allez Christophe, il est dans les temps, il peut se battre. T'es protégeant Christophe, t'as foulé, arrache-toi. Le maître Bolt, champion olympique du 200 mètres.
Il est très
troisième. On va attendre, on va attendre.
Il est sur la ligne.
Le maître est sur la ligne au combat.
Il est sur la ligne au combat.
Bolt est champion.
Bolt champion olympique, 19 secondes, 78 centièmes pour Usain Bolt qui égale sa meilleure perte de la saison, 8e médaille d'or pour la foudre qui a encore frappé deux
grâces. André de Grâce deuxième.
1 seconde 0-2, attention, Christophe Lemaitre est devant nous.
Lemaitre il est médaille de bronze. Christophe
olympique, Lemaitre.
Ça y est, il a fait.
Les poings en l'air, un Français.
Il l'a fait dans le même centième qu'Adam Gemelli, le Britannique.
20 secondes 12 pour Christophe Lemaitre, il a longé de tout son long sur la piste bleue de Rio de Janeiro. Un Français, Christophe Lemaitre, la consécration. Il a été critiqué pendant 5 ans depuis son record personnel.
La voilà, ta revanche, Christophe.
En 2011, il répond à toutes les critiques. Christophe Lemaitre, il n'en revient pas. Il est médaillé de bronze, le Français.
Tiens, fallait qu'on en passe une de Georges quand même.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais si, t'as fait des médailles, Georges.
Ah, il a une pauvre médaille.
T'as été bon le jour d'Andéol, c'était quoi en face?
Pardon?
Le jour d'Andéol, t'as été bon sur un commentaire là.
L'aviron?
C'est l'aviron, excellent l'aviron.
Ou la médaille de bronze du cyclisme sur piste.
Ah, cyclisme sur piste, on l'a, tiens. Tiens,
pour
écoutez.
Pour l'instant, les Français sont Jean derrière pour 63 centièmes. Grégory Baugé qui poursuit son effort, qui va s'écarter pour laisser la place à François Pervis. Les Français toujours derrière, l'écart est le même. 3 centièmes derrière François Pervis qui produit son effort, même dans la ligne droite opposée. Pour le Français, les Français sont toujours derrière, ils ont même perdu du temps. 7 centièmes. Et désormais, il va s'écarter, la cloche qui est retentie. Michael Dalmeida maintenant. Les Français, 1 dixième derrière, ils ont encore perdu du temps. Ils ne vont peut-être même pas avoir de médaille, les tricolores. Allez, Michael Dalmeida pour le dernier tour de piste, il est en train de revenir à 15 centièmes seulement. Michael Dalmeida sur la ligne, il va décrocher la médaille de bronze.
Oh, c'était chaud.
Tu peux nous refaire la médaille de bronze?
Et parce que c'était super chaud.
Messieurs, s'il vous plaît, on retourne au Club France. Isabelle Severino est de retour avec une autre invitée. Isabelle, avec qui tu es?
Une très très grande championne, Alison Pinot là, du handball. Médaillé d'argent, médaille historique du handball ici, et on va en discuter. Il y a à la fois un petit goût amer et à la fois une très très grande fierté, Alison.
Ouais. Bonsoir.
Salut Alison.
Salut.
Raconte-nous un petit peu ces Jeux Olympiques pour toi.
Une très très belle aventure, une année sportive hein, forcément. Beaucoup de fierté d'être entré dans l'histoire du sport français. C'est pas rien, mais c'est vrai que c'est difficile de réaliser pour l'instant. Il y a toujours cette petite déception qui règne, mais qui est en train de s'estomper. Donc voilà, on a ouvert une belle page pour le handball féminin français, et je pense qu'on va mesurer tout ça quand on va rentrer après-demain.
Et allez, 11 médailles hein, quand même pour les féminines sur les 42. Il faut quand même le signaler. Bon, après il y a deux filles notamment en voile, et puis au handball il y a une équipe où elles sont aussi, mais quand même 11 médailles pour les femmes. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on avait fait beaucoup plus chez les femmes. Est-ce que tu es heureuse pour le sport féminin, Alissane?
Ouais, totalement. Il y a eu beaucoup de... Je dirais que le sport féminin a été mis en valeur. Il y avait beaucoup de femmes. C'est super. Ça montre un beau visage, de dire qu'on existe aussi, que on peut performer quoi au plus haut niveau, et faire rêver les gens.
Là-dessus, Alison, j'ai l'impression parfois que dans votre famille du handball, j'ai l'impression que vous vous sentez pas traité comme les garçons parfois. Est-ce que j'ai tort?
Oui, mais après j'ai envie de dire que c'est quelque part, je vais dire que c'est un peu normal que les garçons soient mis un peu plus en avant que nous, parce que ils ont écrit aussi une belle page, ils sont double champion olympique, plusieurs fois champion du monde, c'est pas rien, c'est leur exposition a aussi permis à notre sport justement de passer un cap médiatiquement, même si on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. Il y a un potentiel énorme, mais en tout cas de mon côté il n'y a pas de jalousie. Et aujourd'hui, forcément, avec cette médaille d'argent, il y a beaucoup de fierté de quelque part les rejoindre un petit peu, quoi, même si on est loin encore d'un titre olympique et d'un double.
Oui, mais vous avez ouvert la voie. Pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est ça, exactement. On a ouvert la voie. Il faut continuer comme ça. faut aussi garder l'humilité parce que je pense que le plus dur est à venir, confirmer, faire d'autres médailles. Mais les choses me laissent penser qu'on a de beaux jours devant nous si justement on garde les pieds sur terre et qu'on continue à travailler. Mais vraiment très très contente parce que le handball féminin français avait vraiment besoin de cette médaille dans un contexte assez difficile économiquement. Les clubs féminins souffrent beaucoup, mais c'est pas que dans le handball.
Et c'est difficile d'exister parce que les garçons quand même prennent un pas qui est énorme. Alors même s'ils font du bien au sport en général, mine de rien, les garçons ils sont là, c'est les patrons depuis un certain temps, même si là il y a eu une petite, ils sont un peu flanchés, si on peut appeler ça comme
ils
ça.
Ils n'ont pas flanché, mais
non, ils n'ont pas flanché.
Il faut aussi à un moment donné, c'est toujours difficile d'être toujours attendu, de toujours être en haut. C'est jamais facile, c'est énorme. 3 finales d'affilée. Faut mesurer tout ça. C'est énorme. Donc forcément les mecs prennent de la place. C'est normal. Si nous on veut aussi en prendre, il faut faire comme eux. Voilà.
Alison, tu parlais de la santé des clubs là. C'est vrai que vous les handballeuses, pour les meilleurs d'entre vous, pour bien vivre de votre sport, vous êtes obligés de partir dans des pays qui sont assez étonnants. Je veux dire, vous êtes parti, vous êtes en Macédoine, je crois, ou en Roumanie.
Oui.
D'autres filles y sont encore aujourd'hui, pour certaines. Alors on n'a rien contre la Macédoine, la Roumanie et autres. Hein. On peut très bien vivre à Bucarest et être heureux là-bas, il n'y a pas de problème. Mais enfin, peut-être que vous préféreriez pouvoir exercer votre métier en France, où vous êtes revenu à Brest. Ça c'est au quotidien aussi sans doute un contraignant, c'est-à-dire que vous dites mince, moi voilà, si je veux que ça marche, il faut que j'aille à l'autre bout de l'Europe, je peux pas rester chez moi. C'est aussi ça la vie d'une handballeuse professionnelle.
Ouais, mais je pense que c'est pas que pour le handball, je pense que c'est pour beaucoup de sports. On s'exile parce qu'on a aussi envie de rencontrer d'autres problématiques, se mettre en danger, évoluer en tant que homme ou femme d'ailleurs. Il y a forcément économiquement aussi, mais très souvent c'est aussi par rapport au projet sportif. Moi je me suis partie à l'étranger parce que j'avais envie de jouer à la Ligue des Champions, j'avais envie d'aller au Final Four et de gagner cette Ligue des Champions, que je n'ai pas gagné d'ailleurs. Mais aujourd'hui je suis revenue à Brest parce qu'il y a un vrai projet, ils ont toutes les infrastructures et je pense vraiment qu'on peut arriver à ça dans quelques années. En tout cas c'est mon souhait de le faire avec un club français, ça me tient à cœur. Et aujourd'hui c'est le nouveau challenge que je me suis lancé et je vais me plonger dedans à 10 000%.
C'est tellement agréable quand même, Gilbert, d'avoir nos Français qui sont excellents sur le plan international et de savoir qu'ils reviennent jouer à la maison un peu quand même.
Je dirais que ça tombe à point de vous mettre avec la médaille. Je disais ça cet après-midi aux filles, quelque part c'est dommage parce qu'elles vont pas assez en profiter parce qu'il y a un exode énorme. De toute manière ça va profiter à tout le monde et on va réussir à profiter et à savourer tout ça.
Ouais, les clubs français de hand devraient prendre exemple sur les clubs de basket, parce que ce que réussit à faire Bourges par exemple, il n'y a pas de raison que quelques clubs de handball n'arrivent pas à le faire dans des villes moyennes. Bah, Brest par exemple ça peut marcher. Brest a été champion il n'y a pas si longtemps d'ailleurs avec une autre structure chez les filles, mais les villes moyennes là, avec un public qui répond présent, une salle bien dimensionnée, un budget bien dimensionné, ça peut le faire Alison, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Oui, j'espère justement que cette médaille, ça va permettre à notre sport, surtout au niveau féminin, une plus grande professionnalisation. Je sais que on peut le faire. Je pense que ce que Bourges a fait, c'est super, c'est génial. Je pense qu'on peut aussi le faire en féminin. Et c'est sûr que la médaille des filles en 2012 a aidé. Donc j'espère qu'on va surfer sur la vague pour s'en sortir.
Voilà, il y a aussi l'exemple
du
Cannes envolé.
Voilà.
Alison Pilot, merci beaucoup Alison, encore bravo pour cette médaille.
Merci Alison.
Et Isabelle, merci.
Je suis en vacances là-dessus, pour 2 jours. C'est parfait.
Ah,
les gars,
très bien.
Je vous laisse. Ah oui,
profite bien à Paris. De tes vacances. Merci Isabelle.
Merci à tous.
Bonne soirée. Alors qu'ici, il y a encore du monde. Ouais. Les gens commencent à quitter le Maracana. Il nous reste une grosse minute ensemble, Georges et Nico. Et on a là un maelstrom de Teletubbies, de danseuses de samba, d'athlètes, de volontaires, de n'importe quoi.
Le Maracana est la plus grande boîte de nuit du Brésil, là, actuellement, effectivement, puisque la cérémonie est officiellement terminée, hein, parce que la flamme s'est éteinte, mais ils restent tous là encore au rythme de la samba, les athlètes mélangés aux figurants. D'ailleurs, on voit même des athlètes qui ont volé les costumes des figurants. Je vois un Britannique là qui est habillé en fruit désormais. Il a volé le costume fruit d'un figurant.
Mais est-ce qu'il a donné son truc Team GB moche là au figurant?
Ah, peut-être.
Ah, je sais pas, parce que pour l'instant, je vois un fruit avec des chaussures avec des LED.
Il y a le fruit au milieu, il y a l'arbre évidemment qui restera un symbole. Ils ont voulu marquer l'environnement dans ces Jeux Olympiques, en cérémonie d'ouverture et de clôture également. Thème essentiel de ces 31e Jeux Olympiques ici à Rio. Magnifique quatrième ville à visiter évidemment, que certains vont pouvoir visiter pendant quelques jours encore d'ailleurs.
Ah, je crois que c'est le bouclier final. Ah non, ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. Et nous, en tous les cas, on va s'arrêter là parce que la cérémonie touche à son terme et parce qu'on vous a préparé encore une demi-heure de méga best-of des Jeux Olympiques. Ça va démarrer maintenant. Si vous vous réveillez là, vous allez avoir une sorte de bouquet final de Jeux Olympiques entre 4h et 4h30 sur RMC. Et ensuite, la matinale d'RMC prendra la suite, bien sûr. Donc, restez bien à l'écoute. Voilà, c'est la fin de combien de jours? Là,
5, 22, 17,
16 jours, 17, fois, 16 fois 20. Faites-moi le calcul.
320
heures de direct et d'intégral Rio 2016 ici. Donc,
et merci à tous ceux qui ont veillé la nuit, hein, Gilbert, hein, qui nous ont écouté notamment le soir tard en France.
Oui, c'est vrai, il y avait du monde.
Et merci à toute l'équipe de techniciens qui est ici à Rio, qui a un gros travail pour nous permettre d'être à
l'antenne. Voilà, et Jean voulait également,
Michon, tu as raison. Etienne Desroseaux.
Tu as raison.
Ils sont là, Fabrice Sarade, Damien Gouaguen, qui permettent de retransmettre cette soirée encore une fois.
Et Philippe Michon, tu l'as pas cité.
Si, je cité.
Ah bon?
Bien sûr.
Non, parce que là, il y aura l'aide, tu l'as pas cité.
Je m'en recite. Philippe Michon. Voilà.
Tu l'avais dit.
Et Georges, je voulais également remercier tous les chauffeurs de taxi de Rio.
Oui. Ah, donc, merci. Qui ont permis de faire la moitié d'un Rio Paris aujourd'hui, mais entre le Parc Olympique et le Maracana, 4h30. Quel bonheur.
Allez, le best-of des Jeux Olympiques, c'est tout de suite. Bonne matinée à tous. À l'écoute de RMC. Bye bye.